Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Maëlys Bessery, bonjour à toutes et à tous. Très en colère, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, au centre d'une polémique sur ses dîners fastueux, ses travaux dans son ministère, mais aussi un logement près de Nantes, a affirmé ce matin qu'il ne démissionnerait pas et dénonce une machine lancée pour l'attaquer. C'est un coup de théâtre qui s'est joué hier au tribunal de grande instance de Nanterre. La vente de la filiale française du groupe italien Mondadori a été retardée de quelques mois supplémentaires. Enfin, après avoir intensifié les tensions dans la région du Golfe en décidant de se retirer unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien, voilà que les États-Unis proposent de former une coalition internationale pour escorter les navires de commerce dans la région, au risque donc d'irriter un peu plus encore Téhéran. Et puis à 12h45, Maëlys, ce sera la grande table d'été.
Oui, on va parler des arbres à l'occasion de l'exposition de la Fondation Cartier, avant de faire le portrait du philosophe Emanuele Coccia.
Merci et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Avec un troisième opus délivré hier soir par Mediapart, l'affaire de Rugy commence décidément à ressembler furieusement au nouveau feuilleton de l'été dont les précédentes productions déjà nous ont montré à quel point ce qui s'annonce au départ comme une mini-série peut très vite se transformer en véritable saga et en l'occurrence la troisième saison des Étés meurtriers en Macronie. Toujours est-il que si au dernier épisode, donc, le site d'investigation nous apprenait comment le ministre de la Transition écologique avait congédié sa directrice de cabinet et ex-préfète Nicole Klein, coupable d'avoir conserver un logement HLM sans l'occuper. Voilà qu'il apparaît à présent que François de Rugy lui-même profiterait d'un appartement relevant du dispositif cellier social près de Nantes sans répondre aux conditions de location. L'intéressé dit ne pas en avoir été informé. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors juste avant ce nouveau rebondissement, le ministre et numéro 2 du gouvernement était ressorti de sa convocation en urgence à Matignon avec certes l'assurance de conserver son poste mais aussi de rendre des comptes. Édouard Philippe lui a notamment rappelé que tout responsable public était astreint à la double exigence de transparence et d'exemplarité. Et puis le Premier ministre a également demandé au secrétariat général du gouvernement de diligenter dès aujourd'hui une inspection. Mais désormais que l'intrigue s'est donc encore enrichie avec ce logement à vocation sociale, Rosalie, le scénario de l'exécutif consistant à sauver le soldat de Rugy peut-il changer?
Eh bien, en Macronie, tout est toujours possible, mais pour l'instant, François de Rugy reste au ministère de la Transition écologique. Malgré la pression, malgré les révélations en cascade, malgré la colère aussi, le successeur de Nicolas Hulot s'en est expliqué ce matin sur BFM où il est apparu fatigué.
Quand on est attaqué, matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses. Évidemment, on peut avoir envie de lâcher prise. Mais je ne le ferai pas, car je suis très en colère. Jamais de toute ma vie, je n'ai demandé un logement social. Je donne toutes les preuves à Mediapart. Alors, eh bien, c'est comme si je n'avais rien dit.
Et il ne lâchera pas. Il n'a, dit-il, aucune raison de démissionner. Et François de Rugy se défend d'ailleurs point par point, affaire par affaire, même si sa ligne de défense peut apparaître parfois un peu fébrile.
Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Mais on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. J'en ai plus que marre de voir qu'on essaye de me tailler un portrait de monsieur de Rugy et madame de Rugy. Ma femme, elle prend le métro tous les matins, la ligne 13 pour aller travailler à Gennevilliers.
Le ministre de l'écologie envisage maintenant de porter plainte contre les médias qui propageraient des dénonciations calomnieuses, comme cette histoire de sèche-cheveux dorés à leur fin à 500 euros qu'il aurait fait acheter par l'Assemblée nationale. Tout simplement n'importe quoi, assure ce matin François de Rugy.
Merci Rosalie Lafarge. Et puis j'ajoute une dernière séquence. S'agissant du ministre de la Transition écologique, le journal Ouest France nous apprend ce matin que François de Rugy aurait organisé en mars dernier un dîner avec des lobbyistes du monde de l'énergie. Selon un message privé que s'est procuré le quotidien, le ministre aurait demandé que ce dîner informel n'apparaisse pas dans l'agenda public. On rappellera que son prédécesseur Nicolas Hulot avait lui démissionné après avoir dénoncé la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Les mesures incitant les Français à partir plus tardivement à la retraite ne seront pas mises en vigueur dès l'année prochaine comme prévu initialement, mais plus progressivement pour préparer la mise en place du nouveau régime universel de 2025. Le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale ne contiendra donc pas a priori de mesures de décalage de l'âge de départ à la retraite ou d'allongement de durée de cotisation, ou quand l'exécutif s'apprêterait à renoncer à des économies de très court terme qui auraient servi à financer notamment les dépenses liées à la perte d'autonomie, de même que les baisses d'impôts promises par Emmanuel Macron. Un sursis de quelques mois supplémentaires pour les 700 salariés, quelques 200 pigistes du groupe Mondadori France, numéro 3 de la presse magazine dans l'Hexagone. Le groupe de presse qui comprend notamment les titres Science et Vite, Les Stars, Closer ou bien encore Auto Plus, filiale française d'un groupe italien contrôlé par la famille Berlusconi, devait être cédé à Reworld Media, acteur majeur de la presse magazine en France. Voilà plusieurs mois maintenant que des discussions en ce sens étaient menées au pas de course. Or hier, coup de théâtre, le processus de vente a été freiné par la justice. Abdellah Khalidrissi, bonjour.
Bonjour.
Le tribunal de grande instance de Nanterre estime que la direction a commis un détournement de pouvoir.
Exactement. Le tribunal estime que l'ampleur du projet de cession et le changement significatif de stratégie du groupe Mondadori France justifiaient largement une consultation du comité social et économique de l'entreprise. La direction doit donc commencer à consulter le CSE d'ici une semaine, sous peine d'une astreinte de 50 000 euros par jour. Les syndicats sont forcément ravis par la décision. Ils savent que ça n'empêchera pas la cession du groupe Mondadori, mais ils espèrent qu'ils pourront au moins obtenir des informations de la part de la direction et qu'ils pourront surtout faire des propositions et être entendus pour accompagner au mieux la cession du groupe.
Alors cela fait plusieurs mois déjà, Abdellah, que l'on parle de cette cession. De quoi exactement les salariés ont-ils peur ?
Eh bien tout simplement de disparaître, notamment les journalistes. Les salariés s'inquiètent de la stratégie du repreneur Reworld Media. Un salarié me citait en exemple ce matin le rachat d'un titre de presse qui avait conduit au départ de la quasi-totalité de la rédaction. Crainte confirmée par Bruno Thomas, élu CFDT, au sein de Mondadori France.
Malheureusement, Reworld Media a un historique. Quand il a racheté des titres à Lagardère, ça s'est très mal passé. Et au point qu'aujourd'hui, il y a pratiquement plus de journalistes, que la plupart des titres sont externalisés et qu'il y a eu des démissions en pagaille au moment de ce rachat. Donc nous, on a peur de ça. On a peur de casser un outil qui rapporte de l'argent, juste pour s'en débarrasser.
Avec cette décision de justice, les syndicats ont gagné environ 4 mois pour faire entendre leur argument. Désormais, dans un rapport de force un peu rééquilibré, contacté ce matin, la direction n'a pas été en mesure de réagir.
Merci Abdellah Khalidrissi. Emmanuel Macron célèbre depuis ce matin la fin de la construction du Suffren, le tout nouveau sous-marin nucléaire d'attaque français. La mise à l'eau, proprement dite, de ce monstre d'acier noir de 99 mètres de long n'aura lieu que fin juillet, avec 3 ans de retard avant des essais à quai, puis en mer, et enfin sa livraison à la Marine nationale à Toulon à l'été 2020. D'un coût de plus de 9 milliards d'euros, le programme Barracuda, dont le Suffren est le premier exemplaire, vise à remplacer au total 6 sous-marins entrés en service à partir du début des années 80 par des bâtiments à propulsion nucléaire. S'agissant à présent des missiles de l'armée française retrouvés en Libye, Tripoli a réclamé hier des explications urgentes à Paris. Le gouvernement libyen d'Union nationale, reconnu par l'ONU, s'interroge sur le mécanisme par lequel des armes françaises se sont retrouvées dans un QG du maréchal Haftar et pointe notamment du doigt une contradiction dans les explications fournies par la France. Il s'étonne en effet que Paris ait affirmé que ces armes étaient destinées à l'autoprotection d'un détachement français déployé à des fins de contre-terrorisme, tout en déclarant dans le même temps qu'elles étaient inutilisables. Alors, Florence Parly était ce matin l'invitée de nos confrères de France Info et vous allez l'entendre. Si la ministre des Armées répète que la France n'a pas fourni directement ses armes aux troupes du maréchal Haftar, pour autant, elle n'explique pas véritablement comment elles ont pu finir malgré tout sur cette base.
Il se trouve que ces missiles ont été mis hors d'usage. Ils étaient donc stockés dans un endroit qui était destiné à ensuite permettre leur destruction. Pour des raisons qui tiennent aux événements qui se déroulent en Libye, ces missiles n'ont pas pu être détruits à temps. Ils n'ont jamais été, et ça je crois que c'est ce qui est important, ils n'ont jamais été transférés à quiconque. Ils n'avaient qu'un seul usage prévu, c'était celui de contribuer à la protection d'éléments français qui faisaient du renseignement dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Donc, les propos que l'on peut lire ici ou là sur le fait que ces missiles étaient entre les mains, quels que soient les belligérants d'ailleurs libyennes, sont des propos tout à fait faux.
La ministre des Armées, Florence Parly, invitée ce matin de nos confrères de France Info. Plus de 100 combattants ont déjà été tués depuis mercredi soir dans des affrontements féroces entre les troupes du régime de Damas et des forces dominées par des djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie. 8 civils ont par ailleurs péri en raison des combats dans cette région. 6 d'entre eux, dont un enfant, ont été tués dans des raids de l'armée syrienne dans la province d'Idlib. Un autre a trouvé la mort dans des frappes effectuées par la Russie dans la province voisine de Hama. Quant à la 8e victime civile, il s'agit d'une femme touchée par des tirs de groupes rebelles. Au lendemain d'un nouvel incident avec la marine iranienne qui, selon Londres, aurait tenté de bloquer le passage d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz, mais aussi après des attaques d'origine inconnue contre des pétroliers ou bien encore la destruction d'un drone américain par l'Iran, les États-Unis ont confirmé hier leur intention de former une coalition internationale. Objectif de cette opération qui devrait se mettre en place dans les prochaines semaines, escorter les navires de commerce pour garantir la liberté de navigation dans cette zone stratégique par laquelle transite près d'un tiers du pétrole brut mondial acheminé par voie maritime. Reste à savoir qui pourrait participer donc à cette coalition. Les dirigeants européens semblent plutôt réticents à engager des moyens militaires dans cette région où la moindre escarmouche peut vite dégénérer en conflit ouvert, sans compter qu'il existe déjà une force maritime multinationale pour lutter contre la piraterie. Et puis surtout, Christian Chéneau, la question se pose de savoir si une militarisation en réalité du Golfe ne risque pas d'envenimer la situation.
Cette coalition maritime proposée par Washington ne va pas manquer d'irriter un peu plus les Iraniens, déjà sous très forte pression économique, Téhéran qui dément être à l'origine des derniers incidents dans le Golfe Persique. La 5e flotte américaine, basée à Bahreïn, pourrait jouer le rôle de quartier général pour piloter ce dispositif qui vise à protéger le trafic pétrolier et gazier. Une 20aine de pays, notamment ceux qui importent du pétrole, ont été approchés pour participer à cette coalition, ainsi que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pays riverains du Golfe. Chacun d'entre eux pourrait mettre des navires de guerre à la disposition de la coalition dirigée par les États-Unis, qui n'entendent pas régler toute la facture de l'opération. Ce plan pourrait aussi inclure des moyens aériens de surveillance du trafic maritime. À ce stade, la France, qui dispose d'une base aéronavale à Abu Dhabi, ne semble guère enthousiaste face à cette militarisation accrue de cette zone sensible que proposent les États-Unis. La France n'est jamais obligée de suivre un allié dans un conflit, a rappelé le général François Lecointre, le chef d'état-major des armées. Paris est aujourd'hui engagé dans une logique de désescalade dans ce bras de fer entre l'Iran et les États-Unis, comme l'a montré la récente mission à Téhéran d'Emmanuel Bonne, le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Bref, la coalition dans le Golfe Persique proposée par Washington, qui va concentrer de nouvelles forces militaires, loin d'assurer la sécurité maritime, augmente les risques d'accrochage.
En Tunisie, les corps de 38 migrants ont été découverts hier après qu'un bateau à destination de l'Europe a sombré la semaine dernière, portant à 58 le nombre de victimes. Le bilan définitif pourrait lui dépasser les 80 morts, ce qui ferait de ce naufrage l'un des plus graves à ce jour. Et puis toujours s'agissant de cette crise migratoire, la cour d'assises de Palerme doit, elle, se prononcer aujourd'hui sur le cas d'un Érythréen accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de trafiquants de migrants de la Corne de l'Afrique. Un passeur, en somme, ou plutôt un présumé passeur, puisque l'homme crie pour sa part à l'erreur d'identité. C'est une correspondance à Rome signée Mathilde Imberti.
L'homme a été arrêté à Khartoum au Soudan et extradé en juin 2016 vers l'Italie. Immense satisfaction à l'époque du parquet de Palerme. Mais s'agit-il de ce chef de réseau de passeurs contre qui le procureur a requis 14 ans de prison? Jusqu'au bout, la défense a soutenu la thèse de l'erreur d'identité. Son avocat avance des photos, assure que son client a 6 ans de moins que le trafiquant recherché et qu'il n'a jamais mis les pieds en Libye. Il fournit également une analyse ADN qui relie l'homme dans le box à la mère du trafiquant effectivement recherché, pouvant expliquer la ressemblance physique. L'accusation tient en main des relevés de téléphone portable et des impressions de profil Facebook qu'elle juge significatifs. Medani Mered serait le chef du plus gros réseau de passeurs d'Afrique du Nord. Il aurait organisé la traversée de la Méditerranée pour 13 000 migrants au moins. L'homme érythréen qui se fait appeler le général aurait affrété notamment le bateau dont le naufrage en octobre 2013 au large de l'île de Lampedusa a fait plus de 360 morts. Le verdict est attendu dans la journée pour ce procès fleuve qui s'est ouvert il y a presque 2 ans. L'avocat de l'accusé parle d'une injustice flagrante et entend, si son client est condamné, faire appel, aller en cassation, voire saisir la Cour européenne des droits de l'homme.
Et je précise que l'audience est ouverte ce matin dans la grande salle bunker prévue généralement pour les procès de mafieux. Le jury s'est retiré pour délibérer. Le verdict est attendu a priori dans la journée. On termine avec un mot de météo. Temps variable cet après-midi sur la majeure partie de l'Hexagone, davantage ensoleillé sur un tiers sud du pays. Quant aux températures, elles afficheront entre 21 et 36 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était, comme tous les jours, réalisé par l'excellent François-Charles Domergue. Merci à lui pour toute cette saison passée ensemble à préparer votre journal de la mi-journée. Et pour ma part, je vous retrouve à 18h pour le prochain journal de la rédaction.